amis, nous reprenons la séance après une pause salvatrice et nous allons écouter Agnès Bouvier, mais avant de l'écouter, Pierre-Marc de Biasi a un mot à vous dire.
Oui, enfin, c'est simplement ce que Dufour vient de me signaler, c'est que nous sommes dans une salle des actes, dans une pièce qui a sur un de ses murs qui porte mention du nom de Guignot, traducteur de Kreutzer. Et vous savez, Guignot donc a fait une traduction de Kreutzer en français, qui a cette caractéristique d'avoir un texte qui est double en quantité, en volume, du texte initial en allemand. À vrai dire, c'est pas une traduction, c'est ce qu'on appellerait une adaptation, mais c'est surtout une augmentation considérable. Donc, je le prends comme le symbole d'une des missions que Fractal peut se donner, c'est-à-dire de mesurer ce que, dans le champ des transferts franco-allemands, quelque chose advient comme une appropriation française, un retravail qui va mener la mythographie vers des chemins différents. De cette façon, Michelet a voulu être le Hegel français, hein, à travers l'histoire. Il a été passeur de beaucoup de choses, de Grimm, de Hegel, en effet, notamment dans la philosophie du droit, les principes de la philosophie du droit, mais il y a aussi derrière Michelet tout un collectif d'intellectuels, et Dufour avait tout à fait raison de le rappeler, qui ont eu une contribution créatrice. Ce transfert n'est jamais. Un transfert n'est jamais le passage de la traduction, mais toujours une recréation. Il sera passionnant, parce que ça n'a jamais été fait, de mesurer entre le texte initial en allemand que nos amis allemands à Munich vont établir et la traduction française, les différences, probablement les contradictions aussi. L'information par l'Allemagne de la culture française mythographique est un phénomène génétique dont le processus est aussi une invention dans la traduction. Voilà. Je pense que ça pourrait être une des missions de ce travail aussi.
Merci. J'ai un micro en laisse, donc... maintenant, nous allons écouter Agnès Bouvier, que beaucoup d'entre vous connaissent, qui a soutenu une très belle thèse l'année dernière, en décembre 2007, sur traduire la croyance, écriture et translation dans Salammbô de Flaubert, et qui est l'auteur notamment d'un article dans Romantisme, numéro 136, 2007, Jéhovah égale Moloch, une lecture anti-religieuse de Salammbô, et dont plusieurs articles sont à paraître, notamment dans la revue Flaubert, notre revue Flaubert à paraître. Et je lui laisse donc maintenant la parole pour un exposé sur au rendez-vous allemand, la revue germanique ou la philologie chrétienne au service de la libre pensée. Très beau programme.
Le 31 janvier 1858, le premier numéro de la revue germanique est publié chez Albert Frank, libraire allemand installé à Paris. C'est le début d'une remarquable aventure éditoriale, intellectuelle et humaine, qui s'interrompra 10 ans plus tard, à la veille de la guerre de 70. Tout commence en 1851. À cette date, Charles Dollfuss, un jeune homme issu d'une famille protestante et manufacturière de Mulhouse, fait paraître un opuscule de « Lettres philosophiques » qui connaît un petit succès de scandale. Attaqué par le catholique Veillot comme « matérialiste, athée, être immoral et subversif », il sera défendu dans la presse par le journaliste Auguste Nefzer, lui aussi alsacien, formé à la théologie protestante et acquis au libéralisme. Nefzer avait d'ailleurs passé l'année 1851 en prison pour avoir manifesté son opposition au coup d'État. La polémique vaut à l'ouvrage de Dollfuss une deuxième édition de son livre. Dollfuss et Nevers se rencontrent à Paris en 1857, se lient d'une amitié profonde qu'on peut lire dans leur correspondance conservée à la Bibliothèque nationale, et décident de fonder une revue germanique qui reprendrait sur d'autres bases le titre d'une revue plus ancienne parue à Strasbourg de 1826 à 1837. L'idée de présenter à la France le « miroir du Rhin » à l'aide de traductions choisies d'œuvres allemandes, je cite le programme de la revue 1826, n'est pas nouvelle. Le Spectateur du Nord, fondé à Hambourg en 1797 par Baudu et Villers, avait déjà la même ambition. Mais en passant de Hambourg à Strasbourg puis à Paris, on se rapproche, et pas seulement de manière géographique, du cœur du combat philosophique européen. L'année 1857 coïncide, entre autres, avec la parution des études d'histoire religieuse d'Ernest Renan. Nevzer en rencontre dans la presse, ce qui lui vaut cette lettre de Renan. Je cite « Permettez-moi de vous féliciter et de vous remercier cordialement des beaux articles que vous avez bien voulu consacrer dans la presse à mes études d'histoire religieuse. Je suis fier d'avoir servi d'occasion à cet excellent travail, un des plus approfondis et des plus judicieux que j'ai lu depuis longtemps dans la presse quotidienne. Monsieur Dollfuss m'a écrit il y a quelques jours pour me parler de la revue germanique dont vous devez être le directeur. Peut-être pourrais-je vous donner quelques indications et vous mettre en rapport avec quelques collaborateurs utiles. Nous en causerons quand vous voudrez. » Le lien entre Renan et les directeurs de la revue germanique se fait donc autour d'un ouvrage où l'auteur présente l'une des premières synthèses françaises sur l'exégèse et la philologie allemande. Dès ce moment, Renan devient de facto l'un des directeurs de la nouvelle revue dont il oriente la ligne éditoriale et pour laquelle il recrute des rédacteurs. Son concours sera déterminant pour le succès de l'entreprise. Car la tâche est lourde. Il s'agit de fournir un volume par mois de 192 pages d'impression en moyenne, 4 volumes par an de 576 pages chacun. La rédaction se répartit en articles originaux, traductions, analyses, comptes rendus. Le programme est fixé ainsi par Nevzer. La revue embrassera toute la vie intellectuelle de l'Allemagne, analyse des principaux ouvrages scientifiques, historiques, philosophiques, traductions de romans, correspondances, bulletins critiques et bibliographiques, petites revues bibliographiques françaises, mélange. Les collaborateurs, surtout au début, sont rares. La réputation de Dollfuss effrayant les universitaires qui s'engagent plus volontiers dans la revue des deux mondes. Même Hippolyte Taine, qui avait recommandé à Nevzer son ami Sucot, écrit à celui-ci « N'y signe pas, prends un pseudonyme. Elle, donc la revue, est mal vue. Son exégèse, sa philosophie, sentent le fagot. » La première année, les directeurs rédigent près de la moitié des volumes à eux seuls, sous des noms différents. Ainsi, Auguste Nevzer signe aussi Armand Vallier et T. Dubois. En comptant aussi les initiales de ces deux pseudonymes, il arrive à cumuler en tout 6 signatures. Le noyau rédactionnel de la revue est par ailleurs constitué d'Ernest Renan, Alfred Maury, Émile Littré et Frédéric Baudry. Michel Nicolas et Marcelin Berthelot, amenés à la revue par Renan, fourniront des articles scientifiques importants. La revue n'est pas germanique au sens où elle présenterait exclusivement des contributions traduites ou adaptées de l'allemand, qui ne forment qu'une partie du corpus. Elle l'est dans la mesure où les articles retenus s'inscrivent dans le courant d'idées venues d'Allemagne. Elle cristallise les travaux de ceux qui, en France, se reconnaissent dans les perspectives de recherche ouvertes par la philologie allemande et devient rapidement le point de ralliement de cette nouvelle école dont Flaubert saluera l'aptitude à, je cite, « disséquer les croyances comme les organismes ». Le mot de Flaubert, en l'occurrence, résume parfaitement le propos général de la revue, dont il est un lecteur assidu dans les années 1860, comme en témoigne un certain nombre de lettres de la correspondance ainsi que l'inventaire de sa bibliothèque. Les articles de la revue germanique, écrit un historien du début du XXe siècle, je cite, « ont été, pour les lecteurs de la revue, de véritables révélations. La pénurie de germanistes était telle, il y a 50 ans, qu'on a peine à s'en faire une idée. » On croit sans peine à l'espèce d'ivresse intellectuelle que devait procurer à son lecteur une revue dans laquelle on peut lire pêle-mêle des extraits de Strauss, de Schopenhauer, la marquise d'O, de Kleist, des poèmes de Schiller traduits par Littré, des pages de la correspondance de Herder, de Schiller et de Goethe, de Humboldt, une présentation de Hegel et la philosophie allemande par Auguste Nevzer, des contes de Grimm traduits par Frédéric Baudry, un roman sur la vie de Spinoza, une lettre sur la 9e symphonie de Beethoven traduite de l'allemand de Friedrich Strauss, le discours sur Schiller prononcé à l'Académie royale des sciences de Berlin le 10 novembre 1859 par Jacob Grimm, des travaux sur Wagner et les origines du Nibelungenlied. Ce sont quelques-unes des perles du collier de la revue que le lecteur d'aujourd'hui redécouvre avec le sentiment extrêmement plaisant de leur nouveauté d'alors. Le fil est constitué d'articles d'histoire antique, l'histoire romaine de Mommsen y trouvera son premier écho en France, d'exégèses, parmi lesquelles on remarque surtout la série de Michel Nicolas sur les origines du christianisme et sur les prophètes, de mythologie comparée, l'article de fond étant la traduction de la mythologie comparée de Max Müller par Renan, de linguistique comparée et de philologie orientale, Alfred Maury donnant régulièrement des comptes rendus d'ouvrages allemands sur la question. On imagine que ceux qui traitent de Babylone ou du culte de Mitra ont dû retenir particulièrement l'attention de Flaubert pendant la période de rédaction de Salammbô. L'articulation du linguistique et du religieux, l'intérêt porté à la traduction comme mode d'exégèse, est au cœur des grands articles que Flaubert lit en 1860-1861. Michel Nicolas, par exemple, dans sa série d'articles sur les origines du christianisme, conteste la version des Septante en ce qu'elle, je cite, « adoucit les expressions du texte hébreu qui ferait supposer en Dieu des formes physiques et des passions semblables à celles des hommes. Là où il est question des mains de Dieu, elle parle de la gloire de Dieu ou bien de sa puissance. » Un autre ouvrage, présenté et traduit de l'allemand dans la revue par Nefzer, émet l'hypothèse selon laquelle le culte de Moloch était si solidement implanté chez les Hébreux de l'époque royale que les anciens traducteurs se sont employés à en effacer les traces et ont mis en œuvre toutes les ressources de leur art pour, autant que possible, couper court à la confusion entre Jéhovah et les Elohim étrangers. À lire ces textes, on comprend que la réflexion de Flaubert sur la violence intrinsèque de la Bible et sur le lien entre paganisme et christianisme s'est en grande partie nourrie des travaux de la revue germanique. Les récits de voyage sont également représentés, et particulièrement les récits de voyage en Orient. À partir de juin 1858, Vivien de Saint-Martin, un autre des collaborateurs réguliers de la revue, donne une série d'articles intitulés « Le rôle de l'Allemagne dans les modernes explorations du globe ». Le cinquième article porte sur « La Nubie et l'Abyssinie, la recherche des sources du Nil ». Le souci des origines, qui oriente la pensée occidentale depuis le XVIIIe siècle, se traduit par la quête géographique des sources, laquelle ne se sépare pas d'une réflexion philologique sur la production des mythes engendrés par le procès du voyage. En remontant à la source d'un fleuve mythique, on découvre en même temps comment se fabriquent les fables. Je cite Vivien de Saint-Martin. En parlant d'une de ces tribus des montagnes du Sud qu'ils appelaient les chiens, les Barry affirmaient très sérieusement que ces hommes avaient bien réellement une tête de chien et même qu'ils marchaient à quatre pattes. Ce n'est qu'à force de questions et d'explications qu'on arriva au vrai sens de cette qualification. Ce sont des rapports de ce genre, répandus de proche en proche et propagés par des voyageurs crédules, qui ont donné naissance à ces monstres multiformes dont les anciens peuplaient l'intérieur de l'Afrique, ainsi qu'à des créations hors nature qui, même de nos jours, ont encore trouvé des défenseurs. Ici, voyager fait accéder aux récits de Mirabilia et à leur formation. En dépit de la démythification qui accompagne le recueil du mythe, celui-ci est signalé comme vivant, c'est-à-dire investi de croyances, quels que soient les efforts du savant pour le discréditer en l'expliquant. Ce que le voyageur mythologue découvre en recherchant les sources du fleuve et l'origine de la merveille, c'est d'abord la résistance du fabuleux aux attaques de la raison et du temps. La revue germanique fait également une place de plus en plus large, au fur et à mesure des livraisons, à l'histoire naturelle et à la chimie, dont les enjeux idéologiques sont encore communs pour la période qui nous occupe à ceux de la philologie et de l'étude critique des religions. C'est d'abord Littré, qui analyse parallèlement l'histoire naturelle de Pline, qu'il vient de traduire en français, et le cosmos d'Alexandre de Humboldt. Je cite Littré, « Pline n'avait entrepris rien de moins que n'a fait M. de Humboldt lui-même, et l'histoire naturelle écrite par le Romain est un essai de description physique du monde. » Littré veut montrer à cette occasion les progrès jumeaux du sentiment poétique et des connaissances scientifiques à l'époque contemporaine. Selon lui, tout se passe comme si le degré de savoir et la puissance de l'expression poétique évoluaient conjointement, l'un étant la condition de l'autre. Ce siècle, donc le XIXe siècle, est un siècle de poésie, non pas en dépit d'eux, mais parce que c'est celui de la science, laquelle a ouvert les perspectives du cosmos sur l'infini, élargissant l'âme des hommes. L'article le plus remarqué dans l'ordre des sciences positives vient de Marcelin Berthelot, l'ami de Renan. En juillet 1860, la revue fait paraître, quelques mois avant la parution de la chimie organique fondée sur la synthèse, un article où le chimiste résume les conclusions de son grand œuvre. En publiant ce texte et en annonçant le livre comme l'événement scientifique de l'année, la revue germanique s'engage aux côtés d'un savant qui veut démontrer que le point de départ de la formation des matières organiques est le même que celui de la formation des matières minérales. ce qui revient à dire, je cite, « contrairement aux opinions anciennes, que les effets chimiques de la vie sont dus au jeu des forces chimiques ordinaires », et à refuser l'idée d'une mystérieuse force vitale, indépendante des phénomènes appréhendables et reproductibles par la science expérimentale. L'idée selon laquelle le vivant ne serait pas différent par essence de l'inanimé modifie toutes les conceptions traditionnelles et particulièrement religieuses de la création. Et Berthelot a bien conscience que ce fait, selon lui, est destiné à influer non seulement sur le progrès spécial des sciences expérimentales, mais aussi sur la philosophie générale des sciences et sur les conceptions les plus essentielles de l'humanité. Dans une lettre du 30 janvier 1861, Renan met en parallèle les réactions soulevées par le livre de son ami et celles qui ont accueilli ces langues sémitiques, la science comme la philologie moderne se heurtant à la même inertie scolastique. Contre la scolastique, la philosophie est le partage du libre penseur. Alfred Maury, dans ses souvenirs inédits conservés à la bibliothèque de l'Institut, qualifie Berthelot de « philosophe qui a fait de la chimie » et il poursuit ainsi. Berthelot s'entendait d'autant mieux avec Renan qu'il en partageait la libre pensée, portant même dans les questions philosophiques plus de décision et de netteté, connaissant d'ailleurs mieux les lois de la nature s'il était moins versé dans la science des religions et du langage. Le tronc commun de la pensée qui s'exprime dans la Revue germanique est ainsi la philosophie, au sens hérité de Voltaire, c'est-à-dire l'effort pour dégager la réflexion sur l'homme et la nature de l'emprise du religieux. La spécialisation scientifique est encore toute relative. Ce n'est qu'une question de plus ou de moins. Le chimiste, pour être moins versé dans la science des religions et du langage que le philologue, en connaît suffisamment les matières pour les discuter, de même que le linguiste est encore à même de mesurer la portée philosophique des ouvrages de sciences expérimentales. Au cœur du débat se trouve la question de l'âme et du corps, de l'esprit et de la matière. Un article remarquable à cet égard est la synthèse sur « L'âme de la plante », proposée à la Revue germanique en décembre 1860 par Arnold Boskowitz, à partir des travaux de botanique les plus récents menés en Allemagne, en France et en Angleterre. Il s'agit pour lui d'exposer un ensemble de recherches qui tentent à démontrer, en partant du postulat selon lequel la plante est probablement une créature animée, que celle-ci possède non seulement la faculté de sentir, mais encore une âme. La suite de l'article va plus loin encore dans l'énoncé non seulement des merveilles de la nature, mais de la merveille dans la nature, c'est-à-dire de la conformité des lois naturelles mises au jour par la science moderne avec le dit ancien de la fable. Comme si les travaux scientifiques les plus actuels rejoignaient l'intuition spontanée des peuples occultée par des siècles de scolastique. Comme si les découvertes récentes tendaient à faire ressurgir la pensée primitive qui se formulait autrefois dans le mythe. Ainsi, à propos des fleurs héliotropes, je cite, nous ne croyons plus à l'existence de ces ondines qui, selon la légende, dorment au fond des eaux pendant la nuit et viennent de grand matin se réchauffer au soleil. Mais cette légende prouve que le sentiment populaire avait saisi le charme d'une telle existence alternante. Lorsque Félix Pouchet, dans le traité des générations spontanées qu'il publie en 1859, justifie le spontanéisme par sa présence dans les mythes antiques et l'englobe dans une pensée naturelle, c'est-à-dire vraie dans son principe, en dépit de ses outrances et de ses naïvetés, il admet de la même manière l'existence d'une vérité recelée par les anciens mythes ou les croyances populaires, vérité que les sciences expérimentales doivent retrouver et démontrer en raison. On sait que Flaubert est l'un des premiers lecteurs du livre de Pouchet. Dans une lettre du 5 août 1860, il écrit « J'entremêle mes lectures puniques, qui ne sont pas légères, d'autres faces et si graves. Je me livre maintenant au volumineux bouquin de mon ami le docteur Pouchet sur les générations spontanées. » L'Académie des sciences condamnera, je cite, « cette monstruosité philosophique, cette idée destinée à fournir des armes au panthéisme et au matérialisme, à saper les bases de la religion et de l'État. » Flaubert le rappellera dans le dictionnaire des idées reçues, « Génération spontanée égale théorie socialiste. » La position de la Revue germanique dans ce débat est très claire. L'article de 1861 intitulé « La question des générations spontanées » prend parti en faveur de l'hétérogénie contre Pasteur et Milne Edwards au nom de la fidélité de Pouchet au principe de l'école physiologique allemande, d'après l'article, qui n'a reculé devant aucune de ses conséquences audacieuses. L'auteur de l'article ajoute, pour lever toute ambiguïté, la doctrine des générations spontanées, sous quelque forme qu'on la présente, de quelque autorité qu'on cherche à l'étayer, sera toujours très malsonnante aux oreilles de l'Église, Au fond, cette doctrine est la pierre angulaire du naturalisme et l'école allemande, avec cette hardiesse de généralisation qui la caractérise, a signalé avec netteté toutes les conséquences cosmogoniques qui en découlent. Fin de la citation. La réflexion conjointe sur le mythe et la nature, sur le mythe comme fait de nature et consubstantiel à celle-ci, est le socle épistémologique de ce moment de la pensée. Les articles de la revue germanique, dans leur disparate, contribuent, une livraison après l'autre, au renforcement de cette construction. L'ensemble ouvre, par la médiation de l'Allemagne, sur le divers du monde. Dans sa lettre au directeur de la revue germanique sur les études philologiques et orientales en Allemagne, qui inaugure le premier volume de la revue germanique, Renan dit que, je cite, « la revue doit représenter non seulement l'Allemagne, mais tout ce dont l'Allemagne s'occupe, c'est-à-dire le monde entier. » L'article liminaire de Dollfuss et Nebzer, qu'ils intitulent « De l'esprit français et de l'esprit allemand », exprime la nécessité de rapprocher la France d'une nation dont la singularité réside paradoxalement dans sa capacité à s'assimiler à la culture d'autrui. Je cite ce texte. L'Allemagne a depuis longtemps pris les devants, et ce n'est pas un des caractères les moins singuliers de cette nation d'avoir, avec un fonds personnel aussi riche, constamment offert un si facile accueil aux idées et aux influences étrangères. Sa passion est de tout traduire et de tout s'assimiler. La langue allemande a la faculté de se mouler sur toutes les formes étrangères et d'en garder exactement l'empreinte. Aussi, les Allemands ont-ils les seules traductions d'Homère et de Shakespeare qui existent. Leurs reproductions des poésies et des formes orientales sont des chefs-d'œuvre, et leurs plus grands écrivains n'ont pas dédaigné l'œuvre secondaire de la traduction. L'Allemagne est donc la nation traductrice par excellence, et sa langue le truchement des langues du monde. L'Allemagne est ce territoire linguistique dans lequel les traductions sont des œuvres et par où s'opère la translation de la Grèce aux barbares et surtout de l'Orient à l'Occident. Pour trouver l'Orient, lisez l'allemand. Flaubert le sait bien, lui qui est sans cesse à la recherche de traductions de l'allemand pour Carthage et se trouve dans la nécessité de recourir à ses amis germanistes pour avoir accès à ce qui, avant la revue germanique, reste réservé à un très petit cercle de savants. Sa connaissance de la revue germanique permet d'expliquer, par exemple, que Flaubert ait pu se référer explicitement à l'histoire romaine de Mommsen un an avant la parution de la traduction française, léger anachronisme dont s'étonne Jean Bruneau dans l'édition de la correspondance. Je cite Jean Bruneau, « Flaubert avait-il pu lire le texte allemand de l'histoire romaine qui était en cours de publication depuis 1854 ? C'est peu probable. Flaubert dut connaître l'œuvre de Mommsen et notamment l'histoire romaine à laquelle il se réfère par des extraits ou des analyses imprimées en France dans des publications scientifiques. » C'est la publication scientifique, c'est en l'occurrence la revue germanique. Un résumé analytique donc, de l'ouvrage de Mommsen est publié dès la première livraison de la revue. Il s'agit de l'article d'ouverture, si l'on accepte l'éditorial des directeurs et la lettre ouverte d'Ernest Renan. La première phrase du résumé de l'histoire romaine, dans ces circonstances, résonne avec toute la force d'un propos programmatique. La linguistique est à l'histoire des hommes ce que la géologie est à l'histoire du globe. C'est toute l'histoire, comme discipline, et particulièrement l'histoire antique, qui est ainsi rattachée à l'étude des langues et à, je cite, la révélation du fait capital de l'histoire primitive, la grande migration des peuples indo-européens. Par l'intermédiaire de la revue germanique, Flaubert a donc pu avoir accès à une histoire qui intègre les découvertes linguistiques les plus récentes et s'inscrit explicitement dans le nouveau courant d'idées où les faits de langue, de religion et d'histoire sont pensés ensemble autour de la notion de race. Là, je cite Renan, « C'est là, en Allemagne, que s'est fondée la science capitale qui résume le travail philologique des dernières années, la mythologie comparée. C'est aux fines analyses de M. Kuhn et de ses collaborateurs qu'on doit la démonstration de ce résultat si important que la race indo-européenne n'a eu d'abord qu'un système de mythes dont les Védas nous présentent la forme la plus ancienne, comme elle n'a eu d'abord qu'un seul vocabulaire qui se trouvait part dans les rameaux divers de la grande famille depuis l'Islande jusqu'à Ceylan. » Fin de la citation. La revue germanique donne d'emblée les conclusions et les applications des idées de la nouvelle école. Sur les conseils de Renan, elle en livrera aussi les démonstrations en publiant des traductions de périodiques allemands, telles que le journal pour la philologie comparée de Kuhn et Ofrecht. Les articles d'exégèse constituent également, on l'a dit, une partie importante du contenu de la revue, conformément à la volonté affichée de Dollfuss et Netzer d'enrichir et pacifier la critique des religions en France. Dans le deuxième volume, ils émettent le vœu pieux de transférer d'Allemagne en France une critique dégagée de toute polémique. Je cite « En Allemagne, l'étude critique des religions est une partie intégrante et constante du travail intellectuel. » En France, cette critique, sauf de brillantes mais rares exceptions, n'existe pas. Elle est remplacée par la controverse agressive et les controversistes sont, suivant les circonstances, populaires ou honnies. La revue n'échappera pas, cependant, à la controverse qu'elle prétend désamorcer. Le choix de ses collaborateurs français est de toute façon suffisamment éloquent et les noms de Maury, de Littré, de Renan inscrivent en page de garde de la revue germanique son affiliation objective à la liberté de penser. Avant même sa parution, Alfred Maury envisage la revue comme un cercle philosophique où se recrutent les amis. Là, je cite ses souvenirs. Ce recueil, recherchant la collaboration d'hommes sérieux et l'indépendance d'opinions philosophiques et religieuses que professaient ses directeurs, me convenait. Plusieurs de mes amis, Frédéric Baudry, Michel Nicolas, Ernest Renan, Marcelin Berthelot, y avaient promis et donnèrent des articles. Le premier nom de cette liste, celui de Frédéric Baudry, indique que le groupe des amis de Maury qui s'engage dans l'aventure de la revue germanique sous la bannière de la philosophie coïncide pour partie avec celui que Flaubert rassemble autour de lui au moment de Salammbô. Frédéric Baudry, qui sera l'auteur en 1867 d'un ouvrage de mythologie comparée, Les dieux et les héros, et en 1868 d'une grammaire comparée des langues classiques, est avec Renan et Maury le principal introducteur en France des théories allemandes sur les sciences du langage et des religions. Tous ces ouvrages, depuis le résumé élémentaire de la théorie des formes grammaticales du sanskrit en 1852, jusqu'à de la science du langage et de son état actuel en 1864, en passant par ses traductions des contes des frères Grimm, seront présentés, résumés et discutés dans la revue germanique, soit par lui-même ou ses amis. La réciproque est vraie. Ainsi, en janvier 1862, il fait le compte-rendu du livre d'Alfred Maury, « Le sommeil et les rêves », et par la même occasion, donne aux lecteurs de la revue germanique un panorama de la carrière philologique de Maury, en soulignant fortement le sens polémique de ses travaux. Tout converge vers la dénonciation des superstitions, et parmi celles-ci, de la superstition catholique, qu'il s'agit de démasquer par l'ostension de ses origines païennes. Baudry donne à la revue des dizaines de compte-rendus de livres allemands et français. Par ailleurs, ce qui en fait l'un des collaborateurs les plus assidus et les plus prolifiques. Ainsi, par l'intermédiaire de celui qui se constitue de fait comme le bibliographe de Salammbô, Flaubert a pu avoir accès de l'intérieur et sur un plan privé, non seulement au contenu, mais à la fabrication et aux projets éditoriaux de la revue. Indépendamment de la présence de Maury et de Baudry, le parrainage de Renan est à lui seul un motif de réaction à la parution de la revue germanique. Dans un article très virulent qui provoquera la colère de Flaubert, Monsieur Renan et son rôle dans la science contemporaine, publié dans la Revue européenne, la pensée organiciste de Renan est caricaturée et contestée en ce qu'elle adopte et répand les vues des professeurs de la docte Allemagne sur l'origine du langage. Puis l'auteur de l'article ironise. Un nouveau recueil périodique, paraît-il, destiné à nous faire connaître sous toutes ses faces la pensée allemande, c'est M. Renan qui le prend sous sa protection et par une lettre spéciale servant d'introduction le recommande au lecteur français. De son côté, dès le mois de février 1858, la revue chrétienne s'inquiète. Nous craignons que la revue germanique se borne à faire connaître un seul côté de l'Allemagne, celui qui est le plus sympathique à ses principaux rédacteurs. Déjà dans le premier article, ils nous disent que toute spéculation sérieuse aboutit au panthéisme. Nous voulons espérer qu'ils seront fidèles à leur programme et qu'avec une impartialité qui les honorera, ils nous feront connaître non seulement l'Allemagne panthéiste, mais aussi l'Allemagne chrétienne. Quant au Journal général de l'instruction publique, il s'indigne de ce que, je cite, « la revue germanique n'a pas craint de nommer plusieurs matérialistes allemands, Vogt, Moleschott, d'autres encore ». Mais c'est le nom de Feuerbach qui déclenche les attaques les plus violentes. Dans leur premier éditorial, Dollfuss et Netzer avaient dit que Feuerbach, modifiant la doctrine de Hegel et l'humanisant de toutes les manières, l'avait fait descendre des hauteurs de l'abstraction. Monsieur Feuerbach est resté, concluait-il. Sur quoi, le Journal général de l'instruction publique avait établi que L'audacieux propagateur de cette théorie de l'humanisme qui nie toute spiritualité, toute religion, semble être le philosophe de choix de la revue. Par prudence, le grand article sur Feuerbach proposé par Élie et Élisée Reclus au directeur ne sera pas inséré. C'est l'une des premières mesures d'autocensure pratiquées dans la revue germanique. L'essentiel est dit, cependant, dès le premier volume. Et la profession de foi des directeurs, selon laquelle, je cite, « le spiritualisme et le naturalisme sont deux systèmes incomplets entre lesquels oscillera l'esprit avec plus ou moins de penchant pour l'un ou pour l'autre, jusqu'à ce qu'il soit reconnu que dans le monde où nous vivons et que nous touchons, on ne peut pas plus abstraire la matière de l'esprit que l'esprit de la matière », cette déclaration est prononcée avec la netteté sceptique qu'on reconnaît chez Flaubert quand il renvoie à leurs limites le spiritualisme et le matérialisme. Et là, je vais citer une lettre très célèbre de Flaubert à Mademoiselle Leroyer de Champy, qui commence avec ces mots. « Et d'ailleurs, je ne sais et personne ne sait ce que veulent dire ces deux mots, âme et corps, où l'une finit, où l'autre commence. Nous sentons des forces et puis c'est tout. Le matérialisme et le spiritualisme pèsent encore trop sur la science de l'homme pour que l'on étudie impartialement tous ces phénomènes. L'anatomie du cœur humain n'est pas encore faite. Comment voulez-vous qu'on le guérisse? Ce sera l'unique gloire du XIXe siècle que d'avoir commencé ces études. » Or, les études auxquelles Flaubert se livre pour Salammbô se relient explicitement donc à celle de la nouvelle école qu'il salue et qu'à l'occasion il suit. À la revue germanique, d'après Georges Parizet, je cite, « on n'était pas seulement libéral, mais libre penseur. L'air sentait la poudre. En dépit de la prudence raisonnée de Dollfuss et Nefzer, la revue, par les attaques même qu'elle avait eues à subir, était plus militante. Les premiers volumes sont encore aujourd'hui comme frémissants d'une bataille d'idées. » Cette odeur de poudre, ce frémissement de bataille d'idées, c'est l'atmosphère dans laquelle Flaubert écrit son roman punique. Le moment de Salammbô coïncide exactement avec ce moment de mise à jour, hors du cercle restreint des spécialistes et des experts, des méthodes critiques venues d'Allemagne. Et il ne s'agit pas d'une simple concordance chronologique. Flaubert s'agrège à leur cercle, ou plutôt il les rassemble, chez lui et autour de lui. Le procès de la fabrique des dieux, commencé dans le silence du cabinet avec Saint-Antoine, se poursuit dans l'éclat des conversations parisiennes où l'on communie en haine des prêtres. En contexte français, la pensée germanique se complique naturellement de rage anti-religieuse. J'ai fini.
Merci beaucoup. Je crois que si j'ai bien lu, Max Müller a été traduit pour la première fois par Renan dans la revue germanique, oui. En extrait, oui. À la fin des années 50, oui. Alors que ce qui permettait d'anticiper beaucoup les traductions de volumes.
Ce qui permettait d'avoir accès avant leur publication même aux thèses, à l'essentiel des thèses proposées. Il y avait donc une anticipation, effectivement.
Oui, c'est ça, la connaissance. Et il semble que Flaubert ait connu beaucoup par ses amis, mais aussi par la lecture d'articles en revue des Deux Mondes, revue germanique.
Il avait accès aussi, même par la conversation, par des textes non encore diffusés ou publiés, à des travaux complètement inédits.
Il y a des sommaires à venir de revue.
Et je veux dire que le contradicteur de Pouchet, c'était Pasteur, qui était catholique. Et...
Oui. Oui, ça, on a un peu de mal aujourd'hui à avoir les choses comme ça. Mais Pasteur est du côté des réactionnaires, pour le petit monde intellectuel. Oui. Pouchet, avec sa théorie de la génération spontanée, se passe de Dieu, quoi. Tandis que Pasteur, avec ses microbes, c'est toujours une origine vitaliste qui vient d'un principe ontologique. Oui. Et c'est pas seulement pour des raisons familiales que Flaubert prend plutôt le parti de Pouchet.
Ah non, ça fait vraiment partie de l'ensemble idéologique.
Le contexte idéologique est politique. Fort. On a déjà très bien montré les liens entre la résistance politique à la dictature et l'émergence de ce milieu libre-penseur et qui cherche à faire entrer dans la culture française l'immense réservoir des savoirs allemands. Ouais. Bon, c'est le moment maintenant de voir la discussion.
Y a-t-il des questions, remarques, interventions?
On est au fond là avec cet exposé que je trouve très, très beau, sur la, au seuil de ces travaux fractales que nous avons lancés cette année, et qui vont chercher à revisiter de façon systématique, c'est un peu l'idée, ces grandes configurations importantes. On a parlé de la rue germanique, Dufour va travailler sur la revue des deux mondes, a commencé déjà à travailler. C'est le champ des revues qui va être beaucoup en cause, je crois, dans cette. Mais peut-être reconstituer aussi ce milieu intellectuel.
Ce qui m'a fasciné, oui, c'est vraiment le caractère personnel de tout ça. Tout ça se passe entre bons hommes, comme dirait Flaubert. Hein, et on imagine très bien toutes les conversations, toutes les discussions qui ont pu avoir lieu. Tout ça se passe sur un plan presque intime. On sait que Frédéric Baudry le fournissait en livre venu directement de la bibliothèque de l'Arsenal, des bibliothèques impériales, que tout ça formait un circuit un véritable personnel que Flaubert avait autour de lui.
Il faudrait arriver à constituer ça. C'est-à-dire, il y a les journées, il y a le jour où Flaubert recevait chez lui, où on a parlé Goncourt et d'autres témoignages, la mémoire de discussions formidables, quoi. Beaucoup sur mythe, religion, bouddhisme, sexualité, érotisme, etc. Il y a très belle page de Goncourt là-dessus, mais il y a aussi ses propres déplacements, et puis ce côté un peu snob aussi qu'avait Flaubert et qu'avait ses copains, qui consiste à essayer de se procurer les livres sans passer par tous les embarras et tous les ennuis des bibliothèques. Alors,
je ne sais pas si c'est du snobisme, ça me paraît de la simplicité, moi, au contraire. Oui, c'est quand même plus facile, plus surtout que lui qui n'avait pas de temps.
Tous les snobs,
c'est très naïf.
Il y avait les dynémanies aussi.
Il y a les dynémanies.
Et Sainte-Beuve là-dedans, parce qu'en fait, dans le dictionnaire des idées reçues, il y a cette idée que Sainte-Beuve mangeait du cochon le vendredi saint, etc. Il y a aussi. Oui.
Mais en même temps, Sainte-Beuve n'était pas dans le cercle.
Non, il était dans le cercle.
Parce qu'il était trop. C'était le juge en même temps.
Oui, bien sûr.
Et puis avec Salammbô, l'accusation de sadisme n'a pas été.
Non, n'a pas été. Et dans ta thèse, tu as tout un chapitre sur l'équipe Flaubert, justement.
Oui, ça vient un petit peu de là.
Non, mais ça serait bien de développer ça et d'en faire un livre. Ça serait.
Et là, mon étonnement, quand je les ai tous retrouvés dans la revue germanique les uns après les autres.
Tous les copains, on voit dans la correspondance aussi.
Et c'est des interlocuteurs
moins présent pour Flaubert. Alors qu'il la méprise comme revue littéraire, et pour ce qui est des nombreux articles d'histoire religieuse, il y a quand même beaucoup de références, sinon à des membres, effectivement à un membre de l'équipe, à Renan. Quand Renan prépublie la prière sur l'acropole, à ce moment-là, il y a une lettre de Flaubert. Sinon, il n'y a vraiment aucune lettre, même sur les séries d'articles sur la science et la religion d'Émile Burdouf. Un silence total de Flaubert.
Par exemple, dans la correspondance à Mlle de Rochefoucauld,
c'est une lecture. Non. J'ai regardé toutes les lettres qui concernent l'armée.
Par contre, il lui conseille la lecture de la revue germanique, ça, c'est sûr. Lisez-vous les beaux articles de la revue germanique, ça, c'est sûr.
La revue des deux mondes, pour lui, c'est celle qui l'a descendue pour Madame Bovary.
Oui, c'est ça, oui. C'est souvent par mépris. Oui. Quand il attrape une maladie vénérienne à Beyrouth, il ne sait pas si c'est la. Il y avait deux filles, la catholique et la musulmane, qui lui a filé la maladie, et il dit voilà, un débat pour la revue des deux.
Bien, est-ce que on s'est tout dit aujourd'hui sur cette. Merci encore de cette. Ce très bel exposé sur la.
Vous voulez juste souhaiter faire une remarque. Cette idée de génération spontanée et également du mythe comme fait de nature, il m'a semblé qu'il avait un petit peu passé dans les faits chez Flaubert. les travaux qu'a fait Marshall Holmes, notamment dans Henri et les perroquets, ils montrent très très bien. Et vous m'avez éclairé finalement peut-être sur la probable influence à ce moment-là de ces lectures et du vu de Foucault, puisque dans ces théories, c'est un petit peu ça qui nous enseigne. Hein. C'est cette idée de génération spontanée, etc. Je crois que la féerie a peut-être été le lieu d'expression et de peut-être d'expérimentation de ces pensées.
C'est le mot de la fin aujourd'hui. Bon, bah écoutez, merci beaucoup. Et alors, rendez-vous samedi 13 décembre, même lieu, avec un exposé de Barbara Vinken sur Hérodias, l'église catholique romaine fille de Babel, et normalement présentation de la nouvelle revue en ligne Flaubert, et
oui, alors, samedi,
annonce du séminaire
lundi prochain,
de l'ITEM.
Après le week-end, lundi prochain, le séminaire de sera cette année consacré à une sorte d'atelier théorique ouvert à tous. L'ITEM vise la constitution d'un dictionnaire terminologique de sa discipline et on a décidé de consacrer l'année 2008-2009 à des séances où seront discutés en public des grands concepts sur lesquels nous débattons entre nous et avec vous. Donc lundi prochain, je crois que c'est de 17 à 19, seront posées les questions concernant intertextualité et exogenèse.
Et réception.
Et réception.
Ce sera salle Henri Cartan à l'ENS. C'est une salle tout au fond, près du bâtiment Rateau. Voilà.
Voilà.
Il faut
donc,
essayer de trouver.
C'est une théorie que... Rendez-vous une fois par mois, la première séance lundi prochain, ouais. 17h-19h.
En tout merci. Cas, rendez-vous samedi 13 décembre et merci beaucoup pour nous.